Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie, une First Lady pas comme les autres. Nous avons laissé Eleanor alors que son mari Franklin Roosevelt fait son retour sur la scène politique après des mois d'immobilisation due à la maladie. Il veut devenir gouverneur de l'État de New York. Les élections n'auront pas lieu avant 1928. Mais pour l'heure, nous sommes le 1er janvier 1926. Eleanor mène sa vie comme elle l'entend et ce jour-là, elle s'installe dans une petite maison au nord de New York avec ses deux meilleures amies, Marion et Nancy. Franklin, présent à la pendaison de crémaillère, les a ironiquement baptisés les trois grâces de Honeymoon Cottage, quand elles-mêmes se surnomment plus volontiers les trois mousquetaires. Ensemble, elles vont en faire des choses, créer une petite entreprise d'ébénisterie, acheter une école où Eleanor va enseigner la littérature, le théâtre et l'histoire des États-Unis. L'école reste conservatrice dans ses mœurs. On porte l'uniforme, on prie et l'on entonne l'hymne national avant d'entrer en classe. Mais Eleanor s'inspire des méthodes pédagogiques de Mademoiselle Souvestre et si les élèves viennent de la grande bourgeoisie, elle tient à les emmener visiter les quartiers populaires pour qu'elles comprennent dans quelle misère vivent certains de leurs compatriotes. Il faut sensibiliser ces jeunes filles à l'injustice et à la souffrance, les inciter à défendre des causes qu'elles croiront justes. Pour son rôle naissant de leader auprès des femmes, Eleanor est remarquée et engagée par Alfred Smith, démocrate, candidat à la Maison-Blanche, et elle va soutenir sa campagne de 1928. Eleanor est alors sur tous les fronts, elle organise des réunions, elle répond aux centaines de lettres que reçoit le candidat. Smith est finalement battu par Hoover. En revanche, au même moment, Franklin, de son côté, va se présenter au poste de gouverneur de New York et les élections vont avoir lieu en 1928. Que va-t-il se passer s'il est élu? Eleanor va redevenir femme de gouverneur avec toutes les obligations que cela implique. Devra-t-elle renoncer à celle qu'elle a développée elle-même de son côté pour elle?
Le 1er janvier 1929, 17 ans après un premier mandat de sénateur, 7 ans après la maladie qui a fait de lui un infirme à vie, voici Roosevelt à 47 ans de retour à Albany où a débuté sa carrière. Quelle revanche sur le monde politique qui a cru en 1921 qu'il n'avait plus qu'un passé.
Grâce à Alfred Smith, l'État de New York est devenu un bastion du progressisme. Construction de logements à bon marché, augmentation des salaires des enseignants, réduction à 48 heures hebdomadaires du travail des femmes, eh bien Roosevelt va poursuivre ce programme en réduisant le prix de l'électricité et en créant des assurances sociales. Hélas, moins de 10 mois après son entrée en fonction, survient le krach de Wall Street. C'est le début de la grande crise de 1929 avec ses faillites et ses millions de chômeurs. Une réalité cruelle que les Roosevelt constatent avec effroi à chacun de leurs déplacements dans le pays. Le président Hoover, qui est au pouvoir, semble incapable de résoudre cette crise sans précédent. Aux prochaines élections présidentielles, Franklin Roosevelt le sait maintenant, il sera candidat. Dans la campagne pour la présidentielle de 1932, Eleanor soutient sans réserve son mari, même si la perspective de devoir vivre à la Maison-Blanche ne l'emballe pas du tout. Elle y est souvent venue dans sa jeunesse pour voir ses oncles et tantes. Mondanités, réceptions officielles, œuvres de charité, est-ce ce qui l'attend? Pour l'heure, à la tête de la division des femmes démocrates, elle se charge de mobiliser les électrices. Elle intervient le plus souvent possible dans des meetings, s'efforçant de redonner espoir aux Américains. Jamais jusqu'ici, l'épouse d'un candidat n'a pris de telles initiatives ni occupé tant de place dans la sphère publique. Au présidentiel de 1932, la victoire de Roosevelt est spectaculaire. Il l'emporte avec 57% des suffrages. 42 États sur 48 ont voté pour lui. Eleanor s'installe à la Maison-Blanche. L'heure est au New Deal, la nouvelle donne. C'est le nom du programme destiné à sortir les États-Unis de la crise. Il faut remettre le pays au travail, ranimer l'activité, combattre le chômage par un vaste programme de grands travaux. Jamais les États-Unis n'ont vécu une réforme économique d'une telle ampleur et dans un temps si court. Devenue First Lady, Eleanor doit abandonner certaines activités associatives et militantes, mais elle ne chôme pas pour autant. Pour la seule année 1933, elle reçoit près de 300 000 lettres. Elle est sollicitée pour faire des conférences dans tout le pays. Elle déclare que, crise ou pas, il n'est pas question de renvoyer les femmes qui travaillent au foyer. Car devant les taux de chômage élevés, on y a bien pensé un moment. Elle devient la première First Lady à donner une dimension politique et médiatique à son rôle. C'est une journaliste de l'Associated Press qui travaille à la Maison-Blanche, Lorena Hickok, qui la met en valeur et vante son action auprès des médias. Un activisme qui porte ses fruits puisque dès 1933, il y a beaucoup plus d'articles sur elle que sur son mari. En 1937, un sondage de la chaîne de radio NBC proclame Eleanor femme la plus remarquable de l'année. Sa popularité rejaillit au passage sur celle de son mari. Eleanor est donc la première First Lady à se battre pour davantage de justice sociale et pour l'émancipation des femmes. La première aussi membre du cabinet présidentiel en tant que secrétaire au travail. Pour ne pas perdre le contact avec le peuple américain, non seulement elle parcourt le pays en tous sens, mais à partir de décembre 1935, elle tient une chronique quotidienne intitulée « My Day ». Elle y raconte sa vie à la Maison-Blanche et répond à toutes les questions qui lui sont posées par courrier. À la fin des années 40, cette chronique est reprise par une centaine de journaux aux États-Unis. Comme les femmes journalistes sont souvent cantonnées aux sujets subalternes, Eleanor a l'idée d'instituer à la Maison-Blanche une conférence de presse hebdomadaire réservée aux femmes. Elle a une énergie inépuisable qui se déploie tous azimuts. La presse conservatrice trouve d'ailleurs qu'elle en fait trop. On la dénonce comme une Amazone. On l'accuse de vouloir instaurer un gouvernement des jupons, de vouloir subvertir le modèle traditionnel qui fait la fierté du peuple américain. Oui, les femmes conservatrices lui en veulent, estimant qu'elle donne de la femme une image inappropriée. Elle devrait rester à sa place, se promener au bras de son mari et arrêter de donner son avis à tout bout de champ. C'est surtout dans le sud des États-Unis qu'elle est impopulaire du fait de son engagement contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains et contre la ségrégation. Elle prend parti pour les lois anti-lynchage dans le sud, où la presse la qualifie de « reine de la nation noire » et lui suggère d'aller vivre en Afrique, au Libéria. En 1939, la chanteuse noire américaine Marina Anderson, n'ayant pas pu chanter devant une association très sélecte de Washington du fait de la couleur de sa peau, eh bien, Eleanor obtient qu'elle puisse se produire lors d'un concert en plein air devant le Memorial Lincoln à Washington. Les spectateurs s'y pressent par milliers. C'est un triomphe. L'entrée en guerre des États-Unis le 8 décembre 1941, au lendemain de l'attaque de la base navale américaine de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, eh bien cette attaque et cette entrée en guerre relèguent les nobles causes au second plan. Aussitôt, la Maison-Blanche est transformée en camp retranché. Les fenêtres sont condamnées, il y a des sentinelles sur les toits. Et puis, les quatre fils Roosevelt partent, ils entrent tous les quatre sous les drapeaux. Éléanor n'a pas le temps d'avoir peur pour eux. Elle mène un train d'enfer. Réunion de travail, réception d'ambassadeurs. Son mari, lui, est complètement accaparé, naturellement, par la conduite des affaires militaires et la diplomatie. Ils vont s'éloigner l'un de l'autre pendant ces années de guerre. Et puis, Éléanor est maintenant limitée dans son action, limitée dans ses propos, cantonnée à la visite des usines et des hôpitaux. Enfin, à la radio, elle appelle les femmes et les jeunes à soutenir l'effort de guerre. Elle rappelle que ses quatre fils se battent en Europe. Et comme le combat pour les droits civiques reste son cheval de bataille, elle est l'une des rares personnes à s'insurger contre les réactions anti-japonaises aux États-Unis et à s'opposer à l'internement des citoyens américains d'origine japonaise. Dès 1938, elle a été aussi la première personnalité américaine à demander aux Européens d'accueillir des réfugiés juifs et à prendre position pour la création d'un État juif. En 1942, elle est la première First Lady de l'histoire des États-Unis à traverser l'Atlantique sans son mari pour se rendre dans un pays en guerre. L'objectif de ce voyage est de resserrer les liens entre Grande-Bretagne et États-Unis. Et puis, après l'Angleterre, elle effectue en octobre 1943 une longue tournée auprès des troupes engagées en Extrême-Orient. Elle visite 17 îles. Elle perd 14 kilos, un périple exténuant. Le 20 janvier 1945, a lieu à la Maison-Blanche la cérémonie d'intronisation de Franklin Roosevelt, qui vient d'être élu pour la quatrième fois. Éléonore et lui auront donc passé près de 12 ans à la Maison-Blanche, chose inédite dans toute l'histoire des États-Unis. Une photo est prise montrant Éléonore, Franklin et leurs 13 petits-enfants. Deux jours plus tard, Franklin Roosevelt part pour Yalta, en Crimée, rencontrer Churchill et Staline, le maître de l'URSS. Ce voyage épuisant signera la fin du président Roosevelt. Il meurt le 12 avril 1945 à 63 ans. Éléanor et lui auront été mariés pendant 40 ans. 40 ans de solidarité et d'action commune, d'accords profonds sur les valeurs essentielles. Éléanor n'en a pas fini pour autant avec l'engagement politique et dans ses années d'après-guerre, elle va occuper une position incomparable dans le domaine international. Le nouveau président des États-Unis, Truman, lui demande de faire partie de la commission qui, à Londres, doit travailler sur la Déclaration des droits de l'homme. Elle sera la seule femme de la délégation américaine. Et sur l'ensemble des délégués, il n'y aura que 6 femmes sur 657 représentants. Éléanor participe à d'interminables séances de travail et va se consacrer en particulier aux problèmes des personnes déplacées. Le 27 janvier 1947, elle est élue à l'unanimité présidente de la Commission des droits de l'homme chargée d'élaborer une charte internationale des droits de l'homme. Quelques mois plus tard, le 9 décembre 1948, c'est elle qui présente la Déclaration universelle des droits de l'homme devant l'Assemblée générale réunie à Paris au Palais de Chaillot. Nous sommes ici au seuil d'un grand événement dans la vie des Nations Unies et de l'espèce humaine. Cette déclaration est destinée à devenir la Magna Carta pour tous les hommes du monde. La Magna Carta, c'est un texte constitutionnel non écrit, anglais, britannique. Ce que veut dire là Eleanor Roosevelt, c'est que ce texte va devenir le texte sacré, le texte de référence pour l'ensemble de l'humanité. Le 10 décembre, ce texte est adopté. La salle applaudit à tout rompre, celle que Truman nomme désormais « the First Lady of the World », la première dame du monde. New York, Londres, Paris, Genève, Berlin, pendant 7 ans, de 1945 à 1953, ces fonctions qu'elle a occupées à l'ONU l'ont obligée à de multiples traversées de l'Atlantique. Quand Eisenhower est élu président des États-Unis, Eleanor propose sa démission, qui est acceptée. Lorsqu'elle quitte ses fonctions en 1953, son ultime discours porte sur l'égalité des droits économiques et politiques pour les femmes. Le nouveau pouvoir ne l'enchante guère. Elle considère qu'il trahit l'immense héritage social de la présidence de son mari. Quand Kennedy se présente en 1960, il demande à Eleanor de le recevoir, mais elle n'est pas emballée, car elle lui reproche sa neutralité dans les années du McCarthyisme. Le McCarthyisme était la chasse aux communistes. Mais finalement, après l'avoir rencontrée, elle appuiera sa candidature. Ce sera d'ailleurs son dernier geste de militante. Jusqu'à sa mort, elle combat sur tous les fronts pour les droits civiques des Noirs, pour l'égalité salariale hommes et femmes. Elle écrit des livres, elle donne 150 conférences par an, elle intervient à la radio dans sa propre émission et anime une émission de télé. Eleanor Roosevelt meurt le 7 novembre 1962 à 78 ans. En 1978, soit 16 ans après sa mort, plus de 3300 lettres échangées entre elle et Lorena Hickok, journaliste à la Maison-Blanche, sont rendues publiques. Ce sont des lettres d'amour passionnées. Leur liaison aurait commencé en 1932, l'année de la première élection de Franklin. Hick, comme l'a surnommée Eleanor, a eu une immense influence sur elle et l'a beaucoup poussée à s'engager. Eleanor lui écrivait « Souvenez-vous toujours que personne n'est ce que vous êtes pour moi. C'est avec vous, plus qu'avec quiconque, que je préférerais être en cet instant. Je ne me suis jamais mieux sentie qu'avec vous. » Cette relation dans laquelle Eleanor avait puisé force et courage reste l'une des plus marquantes de sa vie. À l'heure de sa mort, Eleanor Roosevelt, icône des féministes, des homosexuels et des afro-américains, était bien loin de la WASP pur sucre qu'elle était en naissant. Le jour de sa mort, le New York Times écrit qu'elle était l'une des femmes les plus estimées au monde, un symbole de la démocratie américaine dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Sur la statue en bronze à son effigie, inaugurée à New York en 1996 par Hillary Clinton, sont écrits ces quelques mots du politicien Adlai Stevenson. Sa flamme a réchauffé le monde. C'est la fin de ce double épisode consacré à Eleanor Roosevelt, une grande First Lady. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Victor Nolot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.